Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Paroles en musique en ce beau jour de fin de semaine, en ce beau samedi. Nous vous espérons dans une forme redoutable. Je sais que Mac est toujours dans une forme redoutable, puisque Mac, bien sûr, Mac Wickfield est avec moi comme co-animateur de cette émission. Je m'appelle Raymond Perron. Je vous salue tous et toutes et je vous salue, mon cher Mac, aussi.
Bonjour Raymond, plaisir d'être avec vous.
Je sais que vous avez eu une fin de semaine bien remplie, bien occupée. Vous êtes un homme très actif, vous faites un excellent travail d'ailleurs, on apprécie grandement votre contribution à cette émission-ci. Et aujourd'hui encore, j'ai la conviction profonde que vous avez sur votre plateau là un hymne que vous allez nous offrir pour aux fins d'études qui va sûrement être très bénissant également. Qu'en est-il donc?
Nous allons regarder ensemble un hymne, un cantique qui a été écrit dans le 17e siècle, donc ça date, mais tous nos hymnes datent, tout ce qui est bon semble dater, c'est pour ça que nous avons notre âge, Raymond. Donc, nous allons regarder ensemble ce qu'on appelle la doxologie. Certains le connaissent par le nom « Praise God from whom all blessings flow ». Et je vous fais écouter une première version de cette doxologie présentée par Heidi Nadine. Alors, écoutons-la. Elle va nous chanter « Praise God, from whom all blessings flow ».
Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Father, praise the Son, praise the Holy. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and
magnifique interprétation, mon cher Mac. Quel bon choix vous avez fait. Maintenant, vous allez nous raconter ce que ça nous dit, ça, en français, dans la langue de Molière.
Oui, on va le traduire d'abord. Doxa, on sait que c'est un mot grec qui signifie louange, praise en anglais. Mm-hmm. Alors ça se traduit comme suit. Louez Dieu, de qui découle toute bénédiction. Louez-le, vous, toutes les créatures ici-bas. Louez-le en haut, vous, les armées du ciel. Louez le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pas très long.
Non, mais c'est très bon.
Okay. Short and sweet.
Oui, voilà, effectivement. Et j'imagine qu'il y a un historique derrière tout cela. Hein?
Effectivement. Et l'historique est très intéressant, je trouve. C'est un cantique comme vraiment aucun autre, car il existe, comme on a vu, entendu, en quatre lignes seulement. Un petit couplet chanté plus que tout autre chant connu depuis 300 ans. Par-dessus tout, il affirme et confirme la doctrine de la Trinité, entièrement biblique mais peu explicité dans la parole de Dieu. Son auteur, un évêque anglican au franc-parler, du nom de Thomas Ken, est né en Angleterre en 1637. Orphelin, dès son jeune âge, il a été élevé par sa sœur mariée. Après avoir terminé ses études à Oxford, il a été ordonné ministre dans l'Église de l'Angleterre. On décrit son ministère plutôt comme étant coloré et tempétueux. D'abord comme aumônier à l'évêque de Winchester, ensuite à la cour royale aux Pays-Bas. Mais son habitude de dénoncer les vies corrompues des autorités, nous rappelle un peu Jean-Baptiste, ça a coupé courte cette carrière. Et après une seule année, il s'est trouvé renvoyé et intégré à la cour quand même du roi Charles II en Angleterre. Il n'a pas pour autant changé d'habitude, mais contrairement aux attitudes en Hollande, Charles a toujours admiré son courage. Quand il partait à la chapelle, le roi disait souvent « Je dois y aller afin que Ken me dénombre mes fautes ». Et il a même été récompensé et nommé évêque de la région de Bath et Wells. 12 jours suivant la nomination de Ken, quand même le roi est mort, et le nouveau James II n'a pas montré la même tolérance, surtout parce que Ken avait refusé de lire une déclaration royale d'indulgence. Ken a été emprisonné donc à la fameuse tour de Londres avec 6 autres dirigeants de l'Église. Acquitté, il a été quand même enlevé de son poste par William III. Donc il a vu 3 rois en Angleterre différents. William III qui était le prochain roi et il s'est retiré à une vie tranquille d'obscurité dans la maison d'un de ses amis dévoués. Ken est mort à l'âge de 74 ans et l'historien Thomas Macaulay lui a rendu un hommage qu'on aimerait bien tous réclamer à la fin de notre séjour sur Terre. Il a écrit « Thomas Ken s'est rapproché au plus près de ce qui est possible à la faiblesse humaine de la perfection chrétienne. » Le but de Ken dans l'écriture des cantiques, et il en a écrit plusieurs, a toujours été de produire des pièces musicales dont les paroles ne se limitaient pas aux répétitions et aux imitations des psaumes, mais que ses étudiants pourraient chanter dans leur recueillement quotidien. Donc 3 d'entre ces chants, l'hymne du matin, l'hymne du soir et l'hymne de minuit, terminaient chacun avec les 4 lignes si familières qui forment notre doxologie. Et c'est ainsi qu'elle est chantée souvent comme faisant partie d'autres cantiques. Courte mais puissante, cette doxologie nous invite ensemble avec toute autre créature à la louange du Dieu Tout-Puissant.
Amen. Effectivement, c'est bien dit. Courte, mais puissante. Elle est vraiment très substantielle, cette doxologie-là. Et comme vous l'avez mentionné, Mac, le mot doxologie vient donc du grec doxa, qui veut dire gloire, hein, louange, et le mot logos, qui veut dire parole. Alors, c'est une parole de gloire, une parole pour glorifier notre Dieu. Et ça veut dire ça, effectivement, littéralement, une parole de gloire, une parole qui rend gloire à Dieu. C'est donc un thème omniprésent dans la Bible, puisque Dieu a tout fait pour sa gloire. Hein? La parole nous dit sans embâge que Dieu a tout fait pour sa gloire, non pas pour la gloire de l'homme, mais pour sa gloire à lui. C'est un thème vraiment omniprésent dans la Bible. D'ailleurs, la louange à Dieu, c'est un motif récurrent dans tout le psautier. Quel que soit le psaume auquel vous regardiez, hein, vous trouvez une louange à Dieu. Et pour ne prendre qu'un exemple, le psaume 86 au verset 12 va comme suit. « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. » On n'a qu'à penser également dans le Nouveau Testament, la fin du Notre Père, hein, la prière que le Seigneur a enseignée à ses apôtres. Le Notre Père, Matthieu chapitre 6, verset 13, la prière se termine ainsi, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Luc chapitre 2, verset 14, qu'est-ce qu'on y voit? Ce sont les anges hein, qui viennent évangéliser, annoncer la bonne nouvelle aux bergers. Et qu'est-ce qu'ils leur disent après leur avoir annoncé la nouvelle, alors que une multitude d'anges vient se joindre à eux? Ils crient ceci, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloria in excelsis Deo. La première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 31, Paul nous dit simplement, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » etc. C'est extraordinaire, hein? Même dans les petits détails du train-train quotidien, on fait tout pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, quel est le grand péché de l'humanité? La faute qui lui attire le jugement de Dieu. C'est bien le défaut de rendre gloire à Dieu. Encore une fois, la plume de l'apôtre Paul, en Romains chapitre 1, verset 18 à 21, nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu » sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et là, l'apôtre de poursuivre, « Ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Nous avons été créés pour Dieu, nous avons été recréés pour Dieu et tout cela pour sa gloire. Il ne faut pas nous laisser induire en erreur, encore une fois, par la brièveté de cette doxologie. Elle contient plus de doctrine que bien des cantiques beaucoup plus longs. En fait, cette doxologie nous parle de la doctrine fondamentale de la Trinité. La doctrine de la Trinité, elle est difficile, hein, on en convient bien, et elle est même déroutante pour nous parce qu'elle transcende, elle dépasse de beaucoup ce que nos intelligences finies peuvent embrasser. Certains croient que le christianisme enseigne la notion absurde de 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est pas du tout le cas. C'est clairement une fausse équation. Le terme Trinité décrit non pas la relation entre trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Trinité ne veut aucunement dire trithéisme, c'est-à-dire trois êtres qui, ensemble, sont Dieu. Le mot Trinité est utilisé dans un effort pour définir la plénitude de Dieu, à la fois en termes de son unité, parce que Dieu est un, et en termes de diversité. Il est un en trois existences. Une seule subsistance, mais trois existences. La formulation historique de la Trinité, c'est que Dieu est une essence, une seule essence, hein, en trois personnes. Et quoique la formule soit mystérieuse et même paradoxale, elle n'est d'aucune façon contradictoire. L'unité de Dieu est affirmée en termes d'essence ou d'être, alors que la diversité de la divinité est terminée, est exprimée en termes de personne. Je me souviens quand mon fils était petit et que je lui enseignais la doctrine de la Trinité, il devait avoir peut-être 5, 6 ou 7 ans, et je lui explique la Trinité à partir de termes aussi simples que possible, mais il n'y a rien de simple hein, lorsqu'on parle de la Trinité. Il me regardait avec ses beaux grands yeux bruns, et je lui dis, après coup, fils, est-ce que tu as compris? Alors, il me fait signe que oui. Alors, je dis, est-ce que tu peux expliquer à papa? Il dit, oui, ils sont trois, mais ils sont tellement collés que c'est comme s'ils étaient un. Je dis, ouais, ça peut ressembler un peu à ça. Faut pas trop en demander, hein. Mais tout ceci pour dire qu'effectivement, on comprend pourquoi nous appelons ça le mystère de la Sainte Trinité. Alors, on parle de trois personnes en Dieu. Le mot « personne » ne signifie pas une distinction d'essence. les trois sont d'essence divine, hein, ne signifie pas une distinction d'essence, mais une différente subsistance dans la divinité. Une subsistance dans la divinité représente une différence réelle, mais non essentielle, dans le sens d'une différence d'être. Alors, chaque personne subsiste ou existe sous la pure essence du divin. Je suis tout à fait conscient que c'est pas simple ce que je raconte là ce matin, mais je vois vos yeux brillants, je vois que vous saisissez tout cela parfaitement,
vous êtes
mon cher.
Profond là.
Je vais peut-être même me perdre dans mes profondeurs. Toutes les personnes de la Trinité possèdent les attributs divins. Il y a aussi une distinction dans l'œuvre. Ici, on se reconnaît un petit peu plus, hein. Il y a une distinction dans l'œuvre de chaque membre de la Trinité. Ainsi, l'œuvre du salut est en un sens commune aux trois personnes. Les trois personnes sont impliquées dans l'œuvre du salut. Cependant, dans une perspective d'activité, il y a une différence d'opération du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons que le Père initie la création et la rédemption, le Fils rachète la création et le Saint-Esprit régénère et sanctifie, appliquant la rédemption aux croyants. En d'autres mots, c'est le Père qui nous a élus, c'est le Fils qui nous a rachetés et c'est le Fils qui nous applique effectivement les bénéfices de la rédemption.
L'Esprit.
L'Esprit, effectivement, l'Esprit qui nous applique, merci Marc, je savais que vous suiviez bien, les bénéfices acquis par le Christ à la croix. La doctrine de la Trinité n'explique pas exhaustivement le caractère mystérieux de Dieu. Elle en fixe cependant les limites que nos esprits finis ne doivent pas franchir. Elle nous demande d'être fidèles à la révélation biblique qui nous enseigne que dans un sens, Dieu est un, et dans un autre sens, il est trois. Nous avons dans la parole de Dieu plusieurs passages que nous disons trinitaires et qui font clairement ressortir l'implication des trois personnes dans l'œuvre de la création et aussi celle pertinente au salut. Un exemple dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau. Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'eau et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit la parole qui intervient. Hein, nous avons une activité trinitaire dans la création. Dans Matthieu chapitre 28 verset 19, ça nous est familier, ce que nous appelons communément la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je n'ai pas pu résister, Mac, à inclure cette magistrale affirmation de 1 Pierre 1-2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous avons un beau texte trinitaire parmi d'autres. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, de poursuivre cette citation pétrinienne. Venons-en maintenant à notre doxologie, parce qu'il faut y arriver tôt ou tard. Hein? Première proposition d'abord, hein? Pourriez-vous nous la donner? Praise God from whom all blessings flow.
Louez Dieu, de qui découle toute bénédiction.
Voilà, la Bible nous affirme sans hésitation, sans embâche, que toute bénédiction nous vient de Dieu. D'ailleurs, Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus, si vous me passez l'expression, va nous dire dans son épître, chapitre 1, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Une bénédiction, c'est un bienfait, c'est une faveur. C'est d'ailleurs intéressant de noter dans le grec que le mot « makarios » veut dire à la fois « heureux » et « béni ». On se souviendra bien sûr de la réplique de Jésus à l'affirmation de Pierre que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie. Jésus lui dit « tu es bienheureux, tu es makarios, tu es béni Simon Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux ». On voit donc que la bénédiction, c'est aucunement synonyme de sentiment, de feeling. Je ne pense pas que Pierre se sentait particulièrement béni à ce moment-là, mais il l'était certainement. C'est dire que nous sommes souvent inconscients de nombre de bénédictions que le Seigneur déverse en constance sur nous. On en remarque certaines, bien sûr. On désire un emploi particulier, le recouvrement de la santé, et lorsqu'on les a, ben on leur dit « je suis vraiment béni ». Ces choses-là sont palpables et elles viennent toucher nos émotions. Mais le mot veut dire bien plus que cela, et il y a tellement de bénédictions qui sont nôtres et que nous ne réalisons pas. D'ailleurs, si Makarios en grec veut dire à la fois heureux et béni, le mot barak en hébreu veut dire également la même chose, autant heureux que béni. Donc, Dieu a tout créé pour sa gloire, ce qui est sur la terre, de sorte qu'il va de soi que, comme l'affirme la deuxième proposition, toute créature ici-bas devrait le louer, mais aussi ce qui est dans les cieux. La troisième proposition nous parle de l'armée céleste. Qu'est-ce qu'il nous dit la troisième proposition, Mac?
Louez-le en haut, vous, les armées du ciel.
Voilà, les armées du ciel. Et le tout se termine par une reconnaissance de l'égalité des trois personnes qui reçoivent même gloire et même honneur. Dernière proposition.
Louez le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
Et pour terminer ce court exposé, quoi de mieux que de faire appel à la parole de Dieu elle-même qui nous offre cette belle bénédiction trinitaire dans 2 Corinthiens 13, 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
Amen. Merci Raymond. Je vous avais dit au début que ce chant, ce petit cantique est chanté souvent comme faisant partie d'autres cantiques. Alors cette fois, nous allons écouter une présentation musicale sans instrument qui inclut la doxologie. Et ce sont les voix a cappella de la famille Martin qui va interpréter pour nous « Praise God, from whom all blessings flow ».
Et nous nous quitterons sur ces joyeuses notes en vous remerciant encore de votre gentille et gracieuse présence. Et on vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 17h30. Merci également à vous, Mac. Je nous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Coram Deo, sous le regard de Dieu. À la prochaine.
Come!